Merci de me donner la parole et merci Emmanuel pour ton exposé. Je vais réagir essentiellement à partir d'une proposition que Gérard Sansevi avait faite lorsque, au démarrage de ce séminaire, qui en est à sa 12e édition, il me semble, et donc au début, il y avait une question qui était posée, qui était là. Est-ce qu'on peut caractériser les connaissances que l'on peut apprendre et les connaissances que l'on peut enseigner? Il y a une relation d'inclusion, mais il existerait des connaissances que l'on peut apprendre mais que l'on ne peut pas enseigner. Et par ailleurs, les connaissances que l'on peut enseigner ont comme caractéristique de pouvoir être apprises. Et donc, comment est-ce qu'on peut caractériser ces deux ensembles. Et par ailleurs, dans la proposition d'Emmanuel à la fin, la toute dernière partie de son exposé sur le recodage sémantique, c'est une proposition qu'il fait. C'est quand on est en situation d'enseignement, une chose qui peut être faite, c'est le recodage sémantique, dont là vous l'avez encore en mémoire, puisque c'est il y a 5 minutes qu'Emmanuel a présenté ça. C'est dommage, c'était un peu à la bourre à la fin, alors que c'était une partie, je trouve, très, très originale et porteuse de ton exposé. Et donc, la proposition de réponse à la question de Gérard, quand j'avais été invité. En 2012, j'avais fait une proposition de réponse. C'était Yves qui avait été réactant, je ne sais plus comment on dit, répondant à cette proposition. Donc, en gros, la proposition que j'avais faite, elle était basée sur une publication avec John Sweller qui disait, bon, en gros, pour répondre à la question de Gérard, on peut caractériser certaines connaissances qu'on peut appeler naïves ou qu'on peut appeler primaires. Naïve, qui est une façon de caractériser le fait que certains individus, à un certain moment, ont ces connaissances. Primaires, dans une perspective plus évolutionniste, les humains ont probablement eu ces connaissances il y a 100 000 ans aussi bien qu'aujourd'hui, et les opposer à des connaissances secondaires ou scolaires, là encore, deux façons de caractériser ces mêmes connaissances. On avait proposé que les premières sont apprises mais ne sont pas enseignables. On ne peut pas enseigner une connaissance naïve, c'est le point de vue fort que l'on défend, tandis que les secondes sont apprises et enseignables. Et dans à partir de là, j'avais proposé encore une fois comme réponse à la question de Gérard un certain nombre de caractéristiques de ces deux types de connaissances. Leur utilité est différente. Les premières ont une utilité qu'on peut décrire essentiellement de façon adaptative. C'est surtout une fonction d'adaptation à l'environnement actuel de l'enfant puis de l'adulte. Tandis que l'utilité des connaissances scolaires, c'est une utilité essentiellement prospective. On est en train de construire des connaissances pour demain. Les processus attentionnels ont à peu près aucune importance, ou très peu, ou si peu, dans l'acquisition de la première catégorie, alors qu'elle joue manifestement un rôle extrêmement important dans les secondes. Les processus d'apprentissage sont différents. Ils sont essentiellement inconscients ou implicites, sans effort et rapides, alors qu'ils sont conscients, souvent longs, ils nécessitent des efforts attentionnels. Les processus sont essentiellement basés sur l'immersion, donc relations sociales, l'exploration de l'environnement, le jeu, etc. Alors que de ce côté-là, on est plutôt sur l'enseignement, la pratique délibérée. La motivation joue à peu près aucun rôle dans ce plan-là, et alors qu'elle joue un rôle important là. Et la proposition qu'on a faite avec John, c'était de dire une dernière caractéristique, ce serait de dire que le processus de généralisation fonctionne extrêmement bien avec ces connaissances-là. On est en train de faire dans le laboratoire des expériences absolument ignobles en reconnaissance de visage. On arrive à produire de la généralisation en 1 minute, à peine sur des jugements de beauté, par exemple, d'un visage. En une minute, on peut modifier le jugement de beauté avec la présentation simplement de quatre visages. Ça fait froid dans le dos, la puissance du processus de généralisation et d'abstraction de ce côté-là, alors que le processus de généralisation est souvent difficile à mettre en œuvre du côté privé. Voilà un petit peu la proposition de caractérisation que j'avais faite pour répondre à la question de Gérard Sansevi. Et donc la question que je voudrais poser à Emmanuel, c'est est-ce qu'on peut enseigner à des élèves à produire des analogies? Est-ce que il peut aller plus loin que la proposition qu'il a faite et regarder donc de ce côté-là, puisque Emmanuel a essentiellement parlé d'outils et de démarches pour les enseignants et pas pour les élèves. C'est un peu le sens de la question. Par exemple, est-ce qu'on peut enseigner une démarche à des élèves du type pour résoudre un problème, penser à des problèmes similaires ou penser à des problèmes analogues dont vous connaissez la solution? Et la deuxième question, qui est une reformulation différente de cette même question, c'est est-ce que le recodage sémantique est guidé par l'enseignant ou est-ce qu'il est généré par l'élève? Alors peut-être, si j'ai une minute encore pour illustrer le propos en résolution de problèmes, de dire à quel point ce dont on parle, c'est des outils pour l'enseignant ou ce sont des outils pour l'élève. J'ai un exemple qui n'a pas de rapport avec l'analogie, mais c'est une vieille série de manips du début des années 80, où John et son équipe proposaient de comparer des formulations de ce type-là. Donc dans la figure 6 contre, il s'agissait de calculer la valeur de cet angle-là, qui est une formulation du problème orienté vers un but, et de comparer ça avec une autre formulation de ce problème-là, qui est dans la figure 6 contre, calculer la valeur d'autant d'angles que vous pourrez. Et on montre dans ces manips-là que les élèves qui ont travaillé avec ce type de formulation de problème, quand à l'issue d'une phase d'apprentissage, on leur propose un problème de ce type-là, ils s'en sortent mieux, ceux qui ont appris avec des problèmes de ce type-là, que ceux qui, pendant la phase d'apprentissage, étaient avec des problèmes de ce type-là. Donc ça, c'est typiquement un outil pour l'enseignant qui peut être utilisé par l'élève. C'est-à-dire qu'après, on peut essayer d'enseigner à l'élève des démarches du type, dans ce problème-là, essaye de trouver toutes les démarches possibles ou toutes les solutions possibles ou tous les calculs possibles. Et c'est un peu pour illustrer le sens de la question que je voudrais poser à Emmanuel. Donc, je pense que j'ai fini là.
C'est pareil, hein, le jeu du répondant, bon, c'est un format qui a été choisi par les organisateurs. L'idée, c'est aussi quand même de lancer, de préparer le débat et peut-être aussi de proposer à quelqu'un qui vient d'un champ qui est soit congruent avec celui de l'intervenant, soit complètement différent. Alors, c'est pour ça que moi, de la même façon, je vais intervenir très vite. Moi, j'ai en fait envoyé un certain nombre de questions à Emmanuel, mais je vais en garder simplement une ou deux. Je vais simplement dire que, justement, par rapport à... Je suis un peu gêné d'être là parce que je ne suis ni didacticien des maths, ni psychologue. Je viens de la didactique du français. Je m'intéresse à des questions qui relèvent, au fond, en ce moment, en plus du jeu des langages dans des approches comparées des enseignements des arts. Et c'est pour ça que la question de l'analogie m'intéresse beaucoup, en particulier parce que c'est un terme qu'on n'emploie jamais dans le domaine d'où je viens. Par contre, on a beaucoup plus de travaux sur la métaphore, etc. Et en lisant l'ouvrage là que tu as co-signé, en lisant les chapitres que tu nous as envoyés, j'étais très frappé par des références qui renvoient pour moi, qui sont très familières dans le domaine de la sémantique technicale, dans le domaine Au fond, je suis aussi très intéressé que tu utilises La Fontaine et Ésope dans ton matériel. Moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Et ça m'a amené à réfléchir à cette question de l'analogie, d'une manière générale, dans les sciences de la culture. Et dans le domaine d'où je viens, d'une certaine manière, par exemple dans le domaine des arts, on peut se demander si le travail de l'artiste n'est pas justement de fournir des analogies ou des analogues pour faire penser des objets. Alors, pour revenir à des questions plus précises, là où je trouve de l'intérêt à ce concept, et là tu l'as illustré dans le domaine de l'enseignement des mathématiques, mais je crois qu'on peut l'illustrer dans d'autres domaines, je fais une liste de centres d'intérêt, peut-être que ça fera écho avec les vôtres, et ensuite après je poserai ma question. Ce qui m'intéresse ici, c'est le lien entre analogie. Et alors là, dans les problèmes que tu as évoqués, c'est plus les effets perturbateurs de l'analogie qu'on doit contrer par un travail d'enseignement ou même une réflexion, une préparation de l'enseignant à ça. Dans le domaine qui est le mien, ce qui est intéressant, c'est que l'analogie est intéressante par les troubles qu'elle introduit. Par exemple, la métaphore, ce qui est intéressant de conception, soit c'est une traduction, c'est un enjolivement d'une pensée qui a un sens propre, soit, dans le modèle de Ricoeur, par exemple, la métaphore est quelque chose qui crée son propre référent. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant dans la métaphore, c'est plus l'effet de flottement qu'elle produit que ce qu'elle permet de traduire. Et c'est un outil puissant pour penser des objets complexes. Donc là, je renvoie à tous les phénomènes que tu as évoqués quant à le besoin que ressentent les hommes à certains moments d'inventer, de bricoler, au sens fort du terme, des langages qui, pour alors soit dire des choses qui n'ont pas de nom et qui ne peuvent pas avoir de nom, et qui ne peuvent pas être nommées autrement que par ces formes imprécises, ou bien des langages qui sont des langages intermédiaires pour aller vers quelque chose. Et d'une certaine manière, on voit ce passage que tu as illustré assez bien entre des langages exploratoires, d'invention, qui essaye de formuler ce que Frédéric François, linguiste du développement, appelle le difficile à dire, et des langages de la formulation, de la systématisation, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans les exemples que tu donnes la circulation permanente entre ces régimes, entre ces formes, ces modalités sémiotiques, le langage naturel, le langage mathématique, le langage graphique aussi, qui joue un rôle très important. Et puis je dirais même, il y a sans doute, ça c'est votre domaine, des images mentales qui prennent des formes peut-être d'ailleurs en partie corporelles. Ça, c'est un premier élément d'intérêt pour moi, parce que j'y retrouve des questions qui sont intéressantes, avec cette différence qu'en littérature, peut-être, et du côté des arts, ce qu'on aime dans l'analogie, c'est son flottement. Et il est vu positivement. C'est l'artiste est quelqu'un qui produit de l'analogie. Il est payé pour ça, pour produire du flou et du problème. Bon, c'est simplificateur. Autre élément intéressant, moi, au départ, je te dis que ça nous intéresse dans un terme d'actualité pour lequel il y a de l'argent à prendre, c'est la question de la créativité. D'une certaine manière, dans quelle mesure, et c'est un petit peu la question que tu poses, dans quelle mesure tu abordes cette question de l'analogie dans une sorte d'apprentissage de la créativité. On voit bien que le phénomène d'analogie, il y a un mapping, on va chercher à retrouver des identités. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ces phénomènes, dans la perspective de l'analogie, c'est les imperfections du mapping qui produisent et qui donnent des idées nouvelles, qui déplacent les représentations initiales, etc. Troisième centre d'intérêt, moi j'ai trouvé très intéressant, c'est le lien que tu fais, mais tu as évoqué Lakoff et Johnson, c'est-à-dire le lien entre l'approche conceptuelle et une approche corporelle. Hein, d'une certaine manière, il y a entre concept, percept et affect, il y a beaucoup moins de frontières que ce qu'on pourrait penser. Et dans le domaine qui est le mien, c'est tout à fait intéressant. Par exemple, l'idée que la métaphore, elle n'est pas seulement présente, merci, comme phénomène, je dirais, intellectuel, elle s'appuie, elle fait appel à des phénomènes perceptifs qui sont très importants, y compris d'ailleurs, on l'a vu dans les situations que tu évoques, à la limite, on voit, alors moi je comprends les choses comme ça, les sujets manipulés, créer des scénarios, projeter des images, faire des opérations avec des objets, voire se représenter physiquement les choses. En géométrie, il me semble que ce sont des choses que vous mettez en évidence, la position des objets, le vertical, l'horizontal, la manipulabilité des objets, la corporéité de ces objets joue un phénomène soit positif, soit perturbateur. Et je crois que vous insistez beaucoup sur le couple perturbation et aspect positif. Voilà. Et puis, autre élément qui m'intéresse, parce que moi je suis intéressé par le rôle du langage de l'enseignant dans l'interaction et dans les apprentissages, donc effectivement, l'enfant manipule des analogies, produit des analogies, déplace des analogies, et il me semble aussi que le travail de l'enseignant, c'est de lui fournir des analogies dans des opérations de reformulation qui sont censées l'aider à avancer. Et ça, c'est un problème qui m'intéresse aussi, parce que c'est vraiment un art de faire, justement, où on est dans une tension entre en allant vers, en te fournissant des analogies, je t'aide, et en même temps, ces analogies elles-mêmes peuvent être productrices de contre-exemples. Mais ma dernière question portera, parce qu'il faut que j'arrête, hein, je pourrais développer assez longuement vraiment l'intérêt, la fécondité de ces questions dans plusieurs dimensions, science du langage, science de l'apprendre, science du faire apprendre, parce que ça, c'est une question intéressante. Bon, il y aurait beaucoup de questions. Moi, j'en ai une quand même. Là, je vais jouer un rôle. Je ne sais pas s'ils sont présents ici, mais je vais plutôt avoir une position de sociologue. Il me semble, par exemple, que quand on décrit ces phénomènes d'analogie, dans le domaine qui est le nôtre, par exemple, tu as évoqué des situations analogues. Le récit, par exemple, tu as évoqué le proverbe. Il y a plein de ce qu'on appelle ces formes gnoséologiques, c'est-à-dire qui concentrent. Par exemple, dans la tradition rabbinique, on raconte des anecdotes, ça s'appelle les midrash, dans lesquels on raconte une histoire, et cette histoire concentre un savoir social, un savoir moral, un savoir religieux, etc. C'est la même chose qu'on va retrouver dans, par exemple, l'interprétation qui est faite des textes religieux, avec des tas de niveaux d'interprétation. Mais ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que donc l'analogie est au cœur, mais elle est là, prise dans un système de pratiques sociales, d'échanges. Et l'interprétation fait partie du dispositif. Dans le poème, si tu veux, il y a un texte, mais ce qui est important et ce qui fait partie du phénomène littéraire, c'est au fond le commentaire et le travail de commentaire qui fait vraiment partie du phénomène. Donc je ne séparerai pas les analogies en tant que telles, comme phénomène psychologique, de son contexte social et des phénomènes sociaux qui la comparent et qui l'utilisent. Et ça me paraît un élément important, c'est ce que je t'avais dit là, dans une de mes dernières questions, à propos de cette dimension-là. Il me semble que un des problèmes de l'analogie, c'est effectivement qu'elle peut conduire à des dispersions, à des erreurs, etc., où elle est régulée par des échanges. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les négociations qui sont faites autour des analogies initiales pour les retravailler. Et ça, c'est une dimension, si tu veux, sociale qui me paraît aussi tout à fait centrale. Voilà. Alors,